7h-9h, les matins d'été. Quentin l'a fait.
Suite de notre discussion sur le patrimoine culturel face à la guerre, puisque le week-end dernier, la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa a été bombardée, en partie détruite par les forces militaires russes. Et pour poursuivre cette discussion, Vincent Negri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de sciences sociales du politique au CNRS, auteur du patrimoine culturel cible des conflits armés de la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle. C'est paru aux éditions Brûlant en 2014. Avec vous également à distance, Ella Yevtouchenko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice d'Au cœur de la maison aux éditions Bruno Doucet. Je suis très très heureux que vous ayez accepté cet entretien. Je vous avais reçu dans les matins du samedi il y a quelques semaines. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Sophie Bénèche qui est toujours présente dans ce studio. Je rappelle qu'elle est traductrice des œuvres complètes d'Isaac Babel, éditrice. Elle se joindra à nous pour cette discussion. Et pour commencer, Vincent Negri, s'attaquer à Odessa, au-delà des infrastructures populaires, viser le cœur de la ville, son patrimoine, sa cathédrale, qu'est-ce que visait l'armée russe?
Ce que visait l'armée russe, manifestement, c'est l'identité même de l'Ukraine qui est visée. Je veux dire que c'est un processus qui se répète de conflit en conflit et qui n'est pas sans rappeler le bombardement de Dubrovnik en 1991 par les troupes serbes. Donc, c'est-à-dire que Error Dubrovnik était, comme Odessa, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.
Et qu'est-ce que cela représente, Odessa, pour les Ukrainiens, Vincent Negri? Et puis, on a entendu les réactions aussi de l'armée russe, du gouvernement russe, qui nie avoir été à l'origine de ces bombardements, plus exactement, qui nie avoir volontairement visé cette cathédrale. Est-ce qu'on peut les croire? Est-ce que c'est même crédible?
Bien évidemment, dans ce genre de situation, c'est toujours une guerre de communication également qui se joue. Et le fait que le commandement russe insiste sur le caractère involontaire, en quelque sorte, de la frappe, renvoie directement aux conditions dans lesquelles ce genre d'attaque peut être qualifié de crime de guerre, puisque la question de l'intentionnalité est une des conditions clés pour pouvoir incriminer les auteurs de telles destructions. Et au-delà, bien évidemment, il s'agit de toucher au cœur même l'identité d'un peuple. Donc, c'est encore une fois ce qu'on observe dans tous les conflits. Le conflit, la guerre, consiste à vouloir dominer, soumettre une population. Et qu'est-ce qui permet mieux de la soumettre que de porter atteinte à ce à quoi elle tient le plus?
Et là, Yevtouchenko, qu'est-ce que représente Odessa pour les Ukrainiens, pour vous aussi, pour votre génération? Je précise que vous avez entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Le symbole d'Odessa, c'est quelque chose qui résonne dans votre génération?
C'est une des plus grandes villes une des plus belles villes, je dirais, en Ukraine, qui est vraiment pleine d'histoire et des arts. Odessa, notamment, est un grand enjeu de la propagande russe, parce que Odessa, c'est une ville où existaient auparavant des villages, des petites villes, des cosaques aussi. Mais après, quand le grand port a été bâti, après ça, la Russie dit toujours que c'était nous qui ont fondé Odessa. Par contre, ce n'est pas vrai, les historiens l'ont déjà prouvé, ça donne en quelque sorte un prétexte pour les Russes pour dire que ça c'est notre ville et c'est notre patrimoine et pas le vôtre. Par contre, on voit bien qu'avec leurs missiles, ils détruisent ce patrimoine. Est-ce qu'ils vraiment considèrent que c'est leur patrimoine? Là, je ne suis pas du tout sûre.
Et là, Yevtouchenko, vous avez vous aussi le sentiment que c'est le cœur de l'identité ukrainienne qui est attaqué par l'armée russe lorsque cette cathédrale est bombardée et lorsqu'au-delà, le patrimoine d'Odessa, le patrimoine ukrainien est détruit?
Je n'ai aucun doute sur cette question, parce que Odessa n'est qu'un exemple de la destruction massive du patrimoine ukrainien. Et là, on ne parle pas que de l'architecture, et là, on ne parle pas que de cette guerre qui est en cours, mais on parle de plusieurs siècles de la domination russe sur notre territoire, de la colonisation du territoire de l'Ukraine par la Russie, qui, ce qui implique bien évidemment la guerre contre la culture ukrainienne, puisque quand une colonie a sa propre culture, qui est riche, qui est active, qui est vraiment dans le contexte européen, ce n'est pas très commode pour un colonisateur. Du coup, les Russes ont toujours fait de sorte que la culture ukrainienne n'existe plus. Ça allait par les interdictions des publications en langue ukrainienne au 19e siècle. Après, dans les années 30, à l'époque soviétique, les grandes purges qui ont détruit la plupart de la génération des créateurs des années 20. Ça, ce n'est pas que pour vous citer quelques exemples. Mmh. Et bien sûr, ça, tout ça était pour dire après que voilà, les Ukrainiens n'ont pas de culture qui serait à niveau, au niveau de la culture russe. Du coup, les Ukrainiens n'existent pas et ils ne sont que des Russes, mais un peu différents.
Vincent Négri, il faut rappeler que la destruction du patrimoine est considérée, peut-être considérée comme un crime de guerre passible d'être jugé par la Cour pénale internationale. Cette notion de crime de guerre, on la comprend bien pour la chair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela concerne aussi la pierre, si je puis dire ?
Cette notion de crime de guerre, elle s'installe progressivement depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire que, à la charnière des 19e et 20e siècles, sont adoptées deux conventions majeures à La Haye, qui protègent bien évidemment les populations civiles, qui prévoient un statut pour les premiers réfugiés, donc qui codifient, ça peut paraître étrange, ce qu'on appelle le droit de la guerre, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire et ne pas faire en cas d'agression armée. Mmh. Et puis, dans ce corpus, émerge une préoccupation qui est celle de protéger le patrimoine des peuples, voilà, en fait. C'est-à-dire que protéger à la fois les populations, bien évidemment, ordonner aux militaires des conduites, des modes de conduite, mais également protéger à la fois les villes, les villages, et puis apparaît dans cette liste les monuments historiques, les œuvres d'art. Donc on est sur un vocabulaire, bien évidemment, du début du XXe, et aujourd'hui, dans le statut de la Cour pénale internationale, il est question de la protection du patrimoine culturel, mais pas pris isolément, pas en lui-même, parce que, encore une fois, il est le reflet, il est le marqueur d'une identité, notamment des populations qui souffrent dans le conflit.
Et pour bien mesurer à quel point le bombardement de la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa marque le monde et en particulier le monde occidental, le New York Times consacre sa une à cet événement triste. On observe en une du New York Times d'aujourd'hui une photographie de cette cathédrale bousculée, abîmée et un prêtre qui la traverse avec le regard apitoyé. Une deuxième question sur cette notion de crime de guerre. Vincent Négri, le ministre de la Culture ukrainien, lui, a qualifié ce qu'il se passait en ce moment en Ukraine de génocide culturel. Est-ce que ce terme-là vous paraît approprié ?
Ce terme-là reflète bien évidemment l'émotion et reflète la douleur ressentie, bien évidemment. Donc après, sur le terrain du droit, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que quand on emploie le terme de génocide, ça signe, finalement, enfin, ça marque une volonté d'effacement. Ce terme-là renvoie à cette notion-là, l'effacement. Bon, en l'occurrence, la notion de génocide associée au qualificatif culturel n'existe pas dans le droit. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'intention poursuivi par les belligérants, en l'occurrence, enfin par l'agresseur russe en l'occurrence, ne soit pas d'effacer littéralement la culture ukrainienne. C'est-à-dire que je crois qu'il faut effectivement distinguer à la fois ce qu'on observe, la réalité des faits, une réalité sociologique également, et puis la manière dont le droit finalement va les qualifier. Et donc là, il y a peut-être effectivement un écart entre la qualification juridique, puisque on ne peut pas aller cette notion n'existe pas dans le droit, et puis finalement ce que ce qu'on observe sur le terrain, qui est manifestement la volonté délibérée d'effacer l'identité ukrainienne.
Et là, Yevtushenko, cette notion, vous, de génocide culturel, elle vous paraît appropriée, raisonnée avec la réalité ukrainienne aujourd'hui ?
Oui, pour moi, bien sûr, c'est aussi émotionnellement, mais ça résonne parce que on a parlé de la destruction du patrimoine. Il faut aussi ajouter que certains objets ne sont pas détruits, mais sont volés. Si on parle notamment des territoires occupés, par exemple, quand la ville de Kherson a été libérée, on a vu que le musée ethnographique a été... on a volé presque tous les objets qui avaient de la valeur. Il y avait beaucoup d'objets archéologiques. Il y avait des peintures aussi. Donc on voit cette volonté de ne pas seulement détruire l'identité ukrainienne, mais aussi de s'emparer du patrimoine ukrainien pour dire que c'est aussi une partie du patrimoine russe. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi l'extermination physique des créateurs, des gens de la culture, et c'est ça peut-être ce qui est le plus douloureux pour nous maintenant. On a vu plusieurs poètes, écrivains, musiciens, créateurs en grand, partir au combat, et certains sont déjà morts au combat. On voit aussi un exemple d'un écrivain, Volodymyr Vakulenko, qui habitait à la région de Kharkiv et qui a été torturé à mort après que sa ville, Izium, a été occupée par les Russes. On voit l'écrivaine, la jeune écrivaine Victoria Amelina, qui a été tuée par un obus d'artillerie à Kramatorsk il y a quelques semaines. Et donc ça continue, et pour eux, ce n'est pas que la question du génocide en général, mais le génocide culturel consiste à tuer les gens les plus actifs, les gens qui portent cette identité ukrainienne et qui sont capables à propager la culture ukrainienne en Ukraine et ailleurs.
Sophie Benesch, une réaction ?
En fait, ma réaction, elle était plus générale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'autre intervenante.
Et là, Yevtushenko.
Yevtushenko, pardon. Et sur tout ce qu'elle a dit sur le génocide et sur le besoin de tuer l'identité ukrainienne, je voulais juste dire que pour moi, ce qui se passe à Odessa, c'est en fait un symbole vraiment terrible. Parce qu'Odessa, on le disait tout à l'heure, c'était une ville très cosmopolite, dans laquelle la culture russe avait aussi une importance ukrainienne, yiddish, et c'était comme le symbole d'un nœud entre la culture russe et la culture ukrainienne, entre les Russes et les Ukrainiens, et en détruisant ce qu'ils sont en train de détruire en ce moment, ils essayent de détruire l'Ukraine, mais étrangement, ils se détruisent aussi eux-mêmes. Et en fait, c'est suicidaire ce qu'il est en train de faire. C'est à la fois... criminel pour l'Ukraine et suicidaire pour la Russie. Et je trouve que ce qu'il est en train de faire à Odessa, c'est exactement ça, parce qu'il arrête pas de... les Russes répétaient que c'était une ville russe, et c'est vrai qu'elle a quelque chose de russe, mais elle est aussi ukrainienne, mais elle symbolise en quelque sorte cette espèce de lien presque... qu'il y avait entre...
Consubstantiel entre...
Voilà, entre les deux. Mais au lieu de le laisser, si l'Ukraine veut se séparer de la Russie, qu'elle se sépare, mais au lieu de laisser ce nœud se défaire normalement, il essaye, c'est comme s'il détruisait le nœud avec eux-mêmes et les autres.
Depuis janvier 2023, le centre historique d'Odessa en Ukraine a été inscrit à la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison, je cite, des menaces de destruction. Les destructions sont aujourd'hui effectives. Vincent Negri, à quoi cela a-t-il servi de cette dénomination ?
Alors, il faut bien comprendre que dans le système de la Convention du patrimoine mondial, donc portée par l'UNESCO, il y a la liste classique, c'est-à-dire que les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et puis quand on est face à une situation d'urgence, un risque de péril, il est possible de faire glisser en quelque sorte un élément vers la liste du patrimoine mondial en péril. L'avantage, bien évidemment, c'est que ça va mobiliser des fonds, ça va mobiliser des moyens, et ça va accroître tout le dispositif de prévention des risques. Donc, ce n'est pas effectivement, il ne faut pas attendre un résultat tangible sur le terrain immédiat. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça permet, au contraire, enfin pas au contraire, ça permet effectivement de souligner, on va dire, l'urgence d'une situation et de mobiliser la communauté internationale sur la question qui se pose à ce moment précis.
Comment s'est organisé, Vincent Negri, la protection du patrimoine ukrainien depuis le début de la guerre?
Ce patrimoine, il faut, et une de vos invitées l'a souligné, il y a aussi la question des collections dans les musées. Donc il faut envisager les deux versants, à la fois le patrimoine bâti, mm-hmm. Et puis toutes les collections qui sont dans les musées. Donc ce qu'on observe, c'est que sur le patrimoine bâti, ce sont des dispositifs assez classiques, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger les monuments par des dispositifs physiques de protection, comme on a pu l'observer dans d'autres conflits, que ce soit des sacs de sable, par exemple, sur la statuaire urbaine ou autre, donc des choses assez classiques. Mais également, il y a un processus qui se met en place d'évacuation de collections, c'est-à-dire de mise à l'abri des collections qui sont dans les musées, pour justement éviter ce qu'on a observé par ailleurs, c'est-à-dire des pillages. Parce que je pense qu'il faut effectivement qualifier juste de manière claire ce qui se passe. Quand on se saisit des biens d'autrui dans un conflit, ça s'appelle un pillage, qui est une qualification juridique et qui renvoie à des sanctions prévues par la Cour pénale internationale. Et donc, pour éviter ce processus-là, donc une des solutions, c'est de mettre à l'abri. Alors bien évidemment, Jacques, on cherche toujours à savoir qu'est-ce qui a été fait, mais par définition, nous ne le saurons qu'après le conflit, puisque communiquer sur ces questions-là, ça signifie de fournir des informations à l'ennemi. Donc tous les mécanismes de prévention ne sont pas connus, ne sont pas révélés au grand jour, simplement parce que ce serait fournir des informations précieuses à la partie russe, et ça, il n'en est pas question.
En quelques mots aussi, si le patrimoine ukrainien se transforme aujourd'hui, c'est parce que les Ukrainiens tentent de le dérussifier du point de vue culturel. À Odessa, on observe des déboulements de statues, des références à la culture russe en Ukraine sont effacées, des noms des rues sont rebaptisés. Vincent Negri, c'est un processus classique en temps de guerre ?
Oui, c'est un processus assez classique, c'est-à-dire que là aussi, on est dans la réaction immédiate, c'est-à-dire que face à l'agresseur, on cherche à effacer tous les signes qui nous rappellent justement cette agression. Donc, je crois qu'il faut, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité du conflit aujourd'hui, et donc avec des situations d'urgence, et éventuellement, bien évidemment, nous pouvons tout à fait considérer que le fait de débaptiser les rues, de débouler les statues, correspondent à cette urgence-là. C'est-à-dire qu'une urgence de se donner un temps de respiration, de ne plus avoir sous les yeux, finalement, ce qui nous rappelle ce quotidien douloureux. Et donc, voilà. Et puis l'autre temporalité, ce sera après le conflit, où on fera le bilan et les comptes. Et dans ce cas-là, peut-être que d'autres actions prendront place.
Et là, Yevtouchenko, on l'a dit en introduction de cette discussion, vous êtes d'abord, avant tout, poétesse. Et on vous a proposé de lire l'un de vos textes. La parole vous est donnée. Nous vous écoutons sur France Culture.
Ces mots du sable. Il y a des corps... Et pas de mots, pas de mots, pas du tout. Rien que des corps sur la terre. Et ces mots, à quoi bon ces mots contre leur force brutale, contre leur haine, si forte que même les bêtes sauvages n'en sont pas capables, si forte qu'on ne sait pas à quel règne appartiennent ces créatures, parce qu'il n'existe pas de telle catégorie en biologie, qu'on ne trouve pas de tels mots dans les dictionnaires, qu'on ne trouve nulle part de tels mots. Je suis poétesse, j'aurais dû en avoir, mais non. Je n'en ai pas du tout. Point final. La poésie est morte. On l'a torturée à Boutcha. On l'a jetée dans une bouche d'égout. On l'a enveloppée dans un tapis et laissée au bord de la route, après l'avoir longuement violée, bien évidemment. C'est pourquoi il n'y a plus de mots. Et ces mots, à quoi bon ces mots? Du sable qui emplit la bouche quand on tombe raide mort avec une balle dans la nuque.
Merci beaucoup, Ella Yevtouchenko, pour ce poème dit depuis de vous n'êtes pas en Ukraine, non dit depuis l'Ukraine, mais portant sur la guerre en Ukraine. Et merci beaucoup à nos trois invités, Vincent Negri, Ella Yevtouchenko, Sophie Benesch, pour cette discussion sur le patrimoine, la culture ukrainienne. Merci à tous les trois. Vous écoutez France Culture, il est 8h40.